Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
C'est une reine de l'art vocal que nous avons le bonheur d'accueillir aujourd'hui dans l'épopée. Elle est une artiste au grand cœur, une femme engagée, un esprit libre, qui assume ses convictions et se fait entendre sur les scènes du monde entier. Son dernier album en date s'appelle Mogoya, qu'on pourrait traduire par les gens d'aujourd'hui.
Tout à fait.
Car notre invité du jour attache beaucoup d'importance aux relations humaines.
Tout à fait.
Oumou Sangaré, soyez la bienvenue.
Merci beaucoup.
Abedi.
Ça va. Alhamdoulilah. Et vous ?
Très bien, merci.
Ah, Dieu merci.
Sachez tout d'abord que nous sommes enchantés de vous avoir parmi nous. Nous attendions cette rencontre depuis la création de cette émission il y a 15 ans, c'est vous dire.
Ouais.
Et converser avec vous sur un sujet aussi important que les relations humaines est un vrai privilège, d'autant que dans ce monde en pleine ébullition, certaines valeurs sont essentielles. Est-ce que ce sont les dérives de la planète, le manque de respect, les attitudes belliqueuses qui ont suscité finalement cet album?
Oui, tout à fait. Et c'est la situation actuelle, manque de respect, les gens ne se respectent plus beaucoup. Tant qu'il n'y a pas d'amour entre les êtres humains, les guerres, les haines vont régner. Donc du coup, les gens ne respectent plus leurs paroles, qui étaient très importantes chez nous en Afrique. Si un Africain te disait « je te donne ma parole d'honneur », c'était fini. Il n'avait pas besoin de contrat. Donc ça, c'est des valeurs qu'on doit garder. On se trahit vite, il y a beaucoup de trahisons. J'ai dit « waouh, Oumou, si tu aimes le bien-être de la famille, éduquer ton public, vas-y, tiens, il est temps que je me mets à parler, à sensibiliser, tu vois. »
Ça veut dire qu'il y a des valeurs qui se perdent ?
Tout à fait. Il y a des valeurs qui se perdent beaucoup. Ça se comprend aussi parce qu'avec l'arrivage des internets, les enfants, ils regardent les guerres, ils regardent des trucs. Mais nous, on a certaines traditions qu'on doit vraiment sauvegarder, qui sont très importantes pour nous, qui est la chaleur humaine. Voilà.
Est-ce qu'il est difficile aujourd'hui de se faire entendre ou de faire entendre un message positif face aux comportements néfastes qui pullulent à travers la planète ?
C'est pas très facile, mais en même temps, avec la musique, c'est plus facile de passer les messages avec la musique que même dans les... Comme on est en face de nous, en Afrique, les gens ne s'intéressent pas beaucoup à des journaux, à des trucs, mais ça, c'est le moyen le plus facile de véhiculer le message. Ça, c'est la musique.
La parole, finalement.
La parole.
La tradition orale.
La tradition orale, voilà.
Exactement. Mmh. Chaque titre de votre nouvel album porte un message d'apaisement.
Tout à fait.
Djoukourou, c'est le soutien. Malignalé, c'est le Mali est beau.
Tout à fait.
Vous le dites, la musique peut changer l'état d'esprit de ceux qui vous écoutent. Mais
si, bien sûr.
Comment avez-vous vécu les bouleversements de la société malienne ces dernières années?
Ah, c'était très dur. C'était très, très dur. C'était pas facile. Pour nous, surtout les artistes, c'était pas du tout facile. Mais moi, j'ai jugé nécessaire de faire face parce qu'en pleine guerre, j'ai fait une chanson pour apaiser les esprits, là où c'était même difficile de sortir dans la rue. Je vous avoue que c'était incroyable, même les musiciens pour qu'ils viennent en studio pour faire cette chanson, c'était dur. Mais j'ai réussi à le faire et vous ne pouvez pas imaginer combien ça a apporté. Donc j'étais très fière de moi de pouvoir faire ça. Et puis après moi tout de suite, tout le monde s'est mis, les artistes se sont réveillés. Il ne faut pas céder à la peur, ce n'est pas possible. Nous sommes l'esprit de beaucoup de gens, donc on nous regarde, voilà. Que tu as peur ou pas, tout le monde va mourir un jour. Mais vraiment, dans ces situations, j'ai jugé nécessaire de sortir dans mon nid pour vraiment parler avec mon arme qui était le micro.
Depuis 2003, vous êtes ambassadrice de bonne volonté auprès de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Est-ce que ce rôle-là est très différent de votre engagement artistique ou est-ce que ça va de pair?
Ça se complète en fait. Donc c'est à cause de ça même que j'ai accepté d'être ambassadrice de la bonne volonté de la FAO, parce que je vois que c'est une cause noble, juste.
Diriez-vous que votre statut de femme d'affaires, qui évolue aussi bien dans l'hôtellerie que dans l'agriculture,
tout à fait,
vous donne justement la respectabilité qui vous permet d'agir?
Aussi, mais aussi c'est une manière de montrer à la femme en général que ce que moi, Oumou Sangaré, je chante, vient du cœur, c'est réel. Il n'y a rien de triche là-dedans. C'est à cause de ça que j'ai parlé, chanté pendant plus de 25 ans à la femme. J'ai dit, travaillons. On doit travailler, on doit réussir notre vie. On doit être autonome, on doit participer au développement de notre pays. Je l'ai chanté, je l'ai chanté, je l'ai chanté. Mais au bout de 10-15 ans, j'ai jugé nécessaire de poser des actes concrets pour montrer que ce que je chante vient du cœur. J'ai commencé à construire l'hôtel, qui était très mal vu. On m'a frappé là-dessus. Donc, quand j'ai posé l'hôtel, j'ai entendu toutes sortes de calomnies. Ils ont rencontré de tout, mais ça ne fait que me donner des énergies. Ça ne me freine pas. Donc, j'ai réussi à réaliser l'hôtel Wassoulou. Et puis, voilà, je suis rentrée dans l'automobile pour montrer à la femme qu'une femme peut évoluer dans ça. Après tout ça, je recevais des femmes, des associations de femmes. Les femmes venaient vers moi. Oumou, vraiment, on est fiers de toi, on veut être comme toi. Mais on n'a pas d'argent pour poser l'hôtel, on n'a pas d'argent pour être concessionnaire. Et comment tu veux que nous, on réussisse? J'ai dit, mais vous avez raison. J'ai réfléchi, je suis allée au champ. J'ai pris 10 hectares de fer où, durant les week-ends, je vais cultiver un peu de tout dans mon ferme pour montrer à ces femmes. La chance m'a souri, d'accord. Mais mes vides, ce que j'ai vécu dans mon enfance, la souffrance là, qui m'a donné une énergie, j'allais peut-être réussir ma vie à cause de mon énergie, inchallah.
C'est donc cette force de caractère qui a fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. Et quand vous chantez Bena Bena, l'ingratitude sur ce nouvel album, est-ce qu'il n'y a pas une pointe d'amertume face à tous ceux qui vous ont critiqué alors que vous agissiez?
Ouh, amertume, moi je l'ai chanté pour réveiller les consciences. Mais sinon, moi-même, non, moi ça me dit peu quoi en fait. Parce qu'au contraire, quand on commence à me poursuivre, ça ne fait que m'injecter l'énergie. Donc du coup, mais ce qui est sûr, tout le monde n'est pas comme peut-être Oumou Sangaré, n'ont pas l'énergie de tenir les trahisons, les calomnies, ça peut détruire certains gens. Donc du coup, il faut en parler, il faut sensibiliser ceux qui sont comme ça, leur dire qu'arrêter, c'est pas bon, travaillez, levez-vous, travaillez. Quelqu'un vient de réussir sa vie, faites comme lui, ne lui détruis pas, ne cherche pas à le détruire, faites comme lui, c'est ça.
Écoutons cette mise au point d'Oumou Sangaré.
Merci.
Voici Bena Bena, extrait de Mogoya.
Bena, bena,
Bena Bena, le titre qui ouvre Mogoya, le dernier album en date de notre invité du jour, Oumou Sangaré. Parlons un peu de votre destinée, Oumou Sangaré. J'aimerais savoir si petite, vous aspiriez à devenir une grande chanteuse.
Non.
C'était pas dans votre esprit?
Non, ce n'était pas dans mon esprit. Parce que pour pouvoir faire même un album, waouh, mon producteur, il est resté derrière moi 2 ans. Me supplier, me dire non, t'as le talent ou non, ta voix peut changer beaucoup de choses, vas-y, vas-y. J'ai dit non. Et si je fais un album et que ça ne marche pas, c'est la honte. Je ne voulais pas. Vraiment, je ne voulais pas, je ne voulais pas du tout. Le gars, il est resté derrière moi. Il travaille avec Silar Productions ici en France. Il est resté derrière moi pendant 2 ans. Et moi, j'étais très à l'aise dans la rue, dans les baptêmes et les mariages. Et j'arrivais vraiment à me suffire, à suffire ma famille et même à construire une petite villa. Donc pour moi, c'était vraiment... Il n'y avait pas autre chose derrière ça, quoi. J'étais trop contente. Et le jour où il est sorti dans sa voiture qu'il conduisait, il m'a dit, tiens la clé, je te donne, je t'offre si tu acceptes. J'ai dit, non, une voiture à moi, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a autre chose derrière tout ça. Donc j'accepte. J'ai honte après, mais j'ai dit, j'ai accepté à cause d'une voiture. J'ai dit, on y va, je suis prête.
Incroyable.
Et je suis rentrée en studio. On est allé enregistrer à Abidjan, au studio JBZ, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de studio au Mali. Voilà. Donc, on est allé à Abidjan, on a enregistré 6 titres. L'album est venu. Maintenant, comme lui, il travaillait avec Silar Productions, il a amené l'album. Silar était dans un hôtel très grand, l'hôtel, grand hôtel au Mali. On a amené, moi j'étais petite, je le suivais. Donc, on est allé, on a présenté l'album à Silar. Silar dit, ah mais non, ça c'est quel genre de musique, j'aime pas ça moi. Silar dit, on garde la voix elle est très belle. On change la musique carrément. J'ai dit, ah non. Ils ont tourné tous les deux, ils m'ont regardé. J'ai dit, jamais au grand, jamais on va changer ce rythme. Ça c'est le rythme de chez moi, du Wassoulou. C'est ça que je veux. Si il n'y a pas ça, de toute façon, tiens la clé, je ne suis pas dedans. Et ils ont commencé à me souplir encore. Et ils ont essayé de me raisonner. J'ai dit non, 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 je ne suis pas d'accord. On garde ma musique et puis voilà. Et à notre grande surprise, quand l'album est sorti, ça a été un boom partout.
Incroyable. Il y a eu, je crois, 100 000 exemplaires de cassettes vendues à l'époque. Donc ça, c'était en 1988.
Oui, 88, 89. Et l'album est finalement sorti en 90. Voilà, janvier 90.
Et depuis le début des années 90 jusqu'à aujourd'hui, vous brillez dans le feu des projecteurs de Tokyo au Japon à Essaouira au Maroc. On vous a vu sur toutes les scènes. Est-ce qu'il y a un pays sur cette terre qui vous apaise, qui vous donne espoir, où vous aimeriez passer beaucoup plus de temps?
Qui m'apaise? Waouh! Plus de temps, oui, c'est fou. Si je vous dis, vous allez dire que je suis dingue.
Allez-y.
Mais c'est Lagos.
Le Nigeria.
Voilà.
C'est pas le pays le plus calme du monde.
Non, c'est ça, c'est pourquoi je vous dis, si je dis, vous allez dire que je suis folle. Parce que, chose bizarre, quand mon album est sorti, tu vas croire que je suis encore plus aimée au Nigeria que dans le reste du monde. Quand je rentre au Nigeria, je suis traitée comme une reine. Je suis surveillée de l'aéroport jusqu'à là où je vais. C'est du score qui m'accompagne. J'aime beaucoup, même pas ça seulement, j'aime beaucoup Lagos. L'atmosphère m'inspire. C'est le vrai Afrique. C'est le pur Afrique, donc ça m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup le Nigeria. J'aime beaucoup le Nigeria. J'ai un petit pied à terre ici à Paris depuis 20 ans peut-être. Et je viens de temps en temps, quand je veux la tranquillité, oui.
Ça, incognito. Il
faut... Incognito, yeah. Incognito, si je veux ça, je viens à Paris pour vraiment me cacher, couper le téléphone, reposer un peu. Mais si c'est l'amour réellement dans le cœur, ça c'est à Lagos. Vraiment, j'aime beaucoup.
En 2005, vous aviez participé à l'album d'un percussionniste indien du nom de Trilok Gurtu.
Tout à fait.
Vous vous rappelez de ce disque?
Oui, bien sûr.
La fusion entre sa musicalité et la vôtre était incroyable. Est-ce que vous diriez que la culture ancestrale indienne et la culture ancestrale malienne ont des points communs?
C'est possible. Vous savez, la musique a beaucoup voyagé. Il y a des Noirs, Indiens aussi. Mais on ne sait pas d'où vient leur origine. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas historien. Mais ça a quand même des liens forts. Les films hindous sont tellement populaires au Mali. Quand j'étais jeune, notre création, c'était d'aller dans les films indiens. Leurs chansons, leur culture s'approche un peu, vous voyez, un peu à la culture africaine, quoi.
Trilok Gurtu dit que les rythmes indiens et les rythmes ancestraux africains ont beaucoup de points communs.
Tout à fait.
Et ouais. Que ce sont des cultures cousines, en
Tout
quelque
à
sorte.
Fait, ouais.
Pour le plaisir, Oumou Sangaré, je vous propose d'écouter un extrait de ce disque de 2005 qui s'appelait African Fantasy. Voici Trilok Gurtu et Oumou Sangaré.
Merci.
Big Brother, un extrait du fameux African Fantasy signé Trilok Gurtu avec au chant la lumineuse Oumou Sangaré. Vous aimez vous réécouter
Avant que l'album sorte.
Mais après, non.
Non, après, c'est difficile. J'écoute avec les gens parce que si quelqu'un me prend dans sa voiture et il le met, je ne peux pas dire non, ne le mets pas. Mais sinon, moi-même. Avant que l'album sorte, comme on écoute matin, midi et soir, après, on en a assez. Mais ce qui est dur aussi pour les artistes, enfin pour moi, à chaque fois que j'écoute une composition de moi, je vois des erreurs. Je veux améliorer. Je dis non, tiens, il fallait changer cette partie. Donc ça finit jamais. Donc c'est ça.
Et puis une fois que l'album est sorti, il ne vous appartient plus.
Oui,
il appartient
c'est
au public.
Parti déjà. Donc ça ne sert à rien d'écouter. Enfin, c'est bizarre, mais moi je suis comme ça. Je ne suis pas très. Je m'écoute rarement. Même là, la chanson que je viens d'écouter, ça fait des années que je n'ai pas écouté.
Ça date de 2005, hein, donc
ouais,
ça fait au moins 12 ans.
Oui, ça fait des années que je n'ai pas écouté.
Vous faites souvent des apparitions sur les albums de vos consoeurs ou confrères musiciens. Je me souviens d'une version exceptionnelle d'Imagine de John Lennon en compagnie du pianiste Herbie Hancock.
Tout à fait.
Qui vous avait demandé véritablement, il ne voulait pas que vous chantiez en anglais.
Non, pas du tout. Il m'a dit, Oumou, je veux que tu me chantes en bambara. Parce que cette langue, peut-être mes arrière-parents, ils parlaient cette langue. C'est cette langue que je veux. Je veux que tu viennes chanter en bambara dans Imagine. Ça a été enregistré ici à Paris. Donc, lui, il est venu des États-Unis. On est resté une semaine dans un studio éloigné de Paris. Et puis voilà, on a fait le travail.
Je me souviens aussi d'un duo à la télévision française avec Alicia Keys.
Ouais.
Je me souviens aussi d'un album qui s'appelait Red Earth avec Didi Bridgewater.
Tout à fait.
Est-ce que vous pensez que Didi Bridgewater a réellement trouvé ses racines ancestrales au Mali ?
Oui, je vais vous raconter quelque chose qui s'est arrivé avec Didi à l'arrivée de Bamako à l'aéroport. Quelqu'un est venu s'accrocher à Didi et la personne parlait bambara. Il dit, il parle le nom de la personne, parce qu'il pensait que cette personne était Didi. Mais Didi était choqué. Didi a pleuré comme un bébé, tout le monde a pleuré. Didi dit, peut-être que c'est une cousine de moi. Donc du coup, Didi a eu, oh là là, c'était super. Didi est ambassadrice de la FAO aussi comme moi. On est allé dans les villages reculés ensemble. Quand Didi voit les enfants, Didi dit, mais celui-là, il ressemble à mon neveu, il ressemble à ma nièce. Donc Didi était là comme ça, on dirait une oh lolo, c'était trop émouvant. Donc du coup, ça s'est trop bien passé. Le courant passait trop bien entre Didi et les Maliens, et même musicalement.
On dit souvent que les Afro-Américains ont la plus grande difficulté à connaître leurs origines africaines, car leur nom ne reflète pas leur terre.
Tout à fait.
Dans Mogoya, il y a un titre qui a d'ailleurs ouvert cette émission, c'est Fadjamou, qui évoque le nom de famille.
Tout à fait.
C'est important dans la culture malienne ?
C'est hyper important dans la culture africaine, parce que à travers ton nom de famille, on sait qui tu es, d'où tu viens. On est fiers de savoir qui on est. C'est notre identité, c'est hyper important. On doit être fiers de soi-même, quelle qu'en soit l'ethnie.
Donc voilà. Vous êtes fiers d'être une Sangaré.
Ah oui, oui, moi je suis très 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 fiers d'être Peul Fulani.
Oumou Sangaré, nous pourrions converser encore des heures ensemble, mais il va falloir nous quitter. Je vous propose de clore cette émission avec Mogoya, le titre qui donne le nom à l'album, et c'est un blues.
Je n'ai pas fait avec l'esprit de blues, mais c'est un cri de cœur. C'est-à-dire, comment je me débarrassais de quelque chose en criant.
Une libération.
Une libération totale. Donc c'est ça.
Mogoya Oumou Sangaré, notre invité dans l'épopée.
Merci.
C'est sur ce blues intitulé Mogoya que s'achève cette épopée que nous avons eu le plaisir de partager avec l'immense Oumou Sangaré. Merci beaucoup d'être passé.
Merci à vous. C'était un plaisir pour moi aussi.
Je rappelle que Mogoya est disponible chez No Format et que l'on pourra vous applaudir en Europe cet été, le 27 juin à Paris à la Maroquinerie, à Bruxelles le 1er juillet, à Jazz à 7 dans le sud de la France le 3 août et avant cela le 17 mai à Londres et le 26 mai à Jazz sous les pommiers à Coutances en Normandie au nord-ouest de la France, un festival qui se tient du 20 au 27 mai prochain.
Voilà.
Inice Oumou Sangaré.
Merci Irenice Inibara.
L'émission du jour était réalisée par l'une de vos fans, Oumou Sangaré. Il s'agit de l'incomparable Nathalie Laporte. N'oubliez pas Facebook et Twitter si vous voulez réagir. Deezer si vous voulez écouter la playlist de l'épopée. Et musique.rfi.fr pour réécouter cette émission. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours. Dans 30 secondes, le journal.
bon.